Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Bana Okapi sur Radio Okapi. Chaque jour du lundi au vendredi des 15h30 à 17h, nous nous retrouvons grâce à ces programmes dédiés aux plus jeunes réalisés en partenariat avec l'UNICEF. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial pour l'avenir de nos enfants, les cantines scolaires. Nous explorerons leur importance et leur impact en collaboration avec World Vision. En 2023, le gouvernement congolais a annoncé un projet ambitieux, la mise en place des cantines scolaires dans de nombreuses écoles d'ici 2024. Cette initiative, alignée sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, vise à améliorer l'accès à une alimentation saine pour tous les élèves. Ces programmes déjà mis en œuvre avec succès dans certaines provinces grâce au soutien de partenaires tels que le PAM, World Vision et diverses ambassades a démontré son efficacité dans la lutte contre les décrochages scolaires et la pauvreté. Parents, enseignants et organisations internationales saluent cette initiative, mais des questions essentielles demeurent. Comment étendre ces programmes à toutes les provinces? Et quelle est la politique de l'État congolais en matière d'alimentation scolaire? Et comment assurer la pérennité de ces cantines? Pour répondre à ces interrogations, nous avons invité des experts. Des membres de World Vision, un expert en nutrition, un directeur d'école et surtout les principaux concernés, les enfants. Restez avec nous pour une émission riche en informations et en témoignage où nous décortiquerons ensemble l'enjeu des cantines scolaires. Je suis Stanislas Diomi à la présentation de cette émission, mise en onde par Pierre Diassinois. Coordination est assurée par Christian Mapindano Yacris et la supervision par Jean-Marc Matouakimofelele Dijano.
Bana Okapi avec Stanislas Diomi.
En 2023, le gouvernement congolais a annoncé la mise en place de cantines scolaires dans différentes écoles d'ici 2024. La mise en œuvre de ce programme national d'alimentation scolaire est alignée sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Nous voilà en 2025. L'heure est au bilan. Alors, devant moi, j'ai les jeunes parlementaires de la ville province de Kinshasa. Ils vont se présenter, ils vont nous dire quel message ils nous ont apporté. Je commence à ma droite avec...
Victoria Matimoy, enfin parlementaire de la République démocratique du Congo.
Très bien. Et mon ami en face
Moi, c'est Ange Panis Ndombeli.
Enfant parlementaire.
Ouais, également.
Moi, c'est l'honorable Étienne Daye, enfant parlementaire de la République démocratique du Congo.
Je suis Myriam Masoso Mabenga, enfant parlementaire de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Mm-hmm. Et je suis étudiante.
Très bien. Comme vous le savez déjà, la semaine dernière, il y a eu la quatrième édition du forum sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite. Mais dans ce forum, on a évoqué l'aspect nutrition, c'est-à-dire la nutrition aujourd'hui, et sera prise en compte dans la couverture santé universelle, et comme la vaccination de routine et tout, et même la vaccination du cancer du col de l'utérus. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous baser sur la malnutrition. Il y a un problème criant de la malnutrition, comme nous avions parlé l'autre fois, je crois que c'était l'année passée, ouais. Avec Ange, si je ne me trompe. On a parlé vraiment de la malnutrition. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça a changé ou le taux de la malnutrition ne fait qu'augmenter? Je commence avec Victoria.
Merci. Apparemment, à ce moment, le taux de la malnutrition commence à augmenter, vraiment, compte tenu de la famine et tout. Donc, nous constatons qu'il y a encore taux élevé de la malnutrition.
Voilà, selon Victoria, il y a un taux élevé de la malnutrition. Et ça, c'est très important de le signaler. Et on prend l'avis de l'autre honorable, Ange.
Ouais, moi aussi, je suis du même avis de ce que l'honorable Victoria dit. Il y a un taux de malnutrition qui augmente presque chaque année. Parce que vu la rareté des denrées alimentaires et de la sécheresse, voire même des problèmes climatiques qui font en sorte à ce que plusieurs enfants souffrent de la faim et de la malnutrition en RDC.
Plusieurs enfants souffrent de faim et de la malnutrition en RDC. Oui, cher ami honorable, qu'est-ce que tu en dis?
Oui, la malnutrition ne fait qu'augmenter parce que, vu la guerre à l'est du pays, il y a beaucoup des enfants qui fuient la guerre. Et puis, vous voyez un enfant comme ça qui fuit sans abri, sans parents, et tout ça, presque chaque jour, ça ne fait qu'augmenter le pourcentage des enfants malnutris.
Oui, honorable, à votre tour.
Ok, merci beaucoup. Moi, je dirais, en fait, la malnutrition augmente toujours dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a des parents jusque-là ne savent pas encore c'est quoi les repas adéquats pour les enfants. Ils ne savent pas encore comment faire les repas pour donner aux enfants. Vu aussi le moyen et puis beaucoup de difficultés. Voilà pourquoi la malnutrition augmente toujours dans notre pays.
Mais bien que c'est parmi les priorités du gouvernement, et qu'est-ce que ça vous dit? Où est-ce que le bât blesse pour que cette situation de malnutrition soit de plus en plus récurrente dans notre pays et surtout dans les écoles? Parce que vous savez, comme nous venons de le dire tantôt, on a instauré le système des cantines scolaires au niveau des écoles, c'est-à-dire des menus restaurants pour permettre aux élèves, pendant la récréation, de manger quand même quelque chose de consistant pour lutter normalement contre la malnutrition. Est-ce que cela est fait dans les écoles? Et c'est à quel pourcentage? Parce que vous représentez les enfants de la RDC. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose pour vous, sans vous, c'est-à-dire on ne le fait pas pour vous. N'est-ce pas? Ah, cette expression, je l'ai apprise chez vous. Hein. Allons-y. Pourquoi ça perdure?
Bon, en fait, ces problèmes, ça persiste toujours parce que quand nous voyons à l'école, d'abord les élèves mangent les histoires où on ne sait pas comment est-ce que cela a été fabriqué et les histoires en question, ça consiste à quoi comme produit. Et l'enfant mange seulement parce que peut-être les histoires sont à 500 francs et l'enfant 100 francs ou 200. Elle va chercher quelque chose de 100 francs ou de 200 qui ne contribuera jamais à sa santé. Et voilà pourquoi ce problème persiste toujours dans la santé des enfants. Mais non seulement ça, mais aussi le parent donne aux enfants les aliments à qui ils sont à possibilité de donner aux enfants par faute de moyens. Le parent, il sait que pour que mon enfant mange bien, je dois faire le légume et puis le poulet à côté. Mais à cause de moyens, il peut seulement faire les poissons, seulement comme ça, bouillon, sans ça, quelque chose de...
Sans accompagnement.
Et il a déjà tant de faux greffes pour la santé de l'enfant.
Alors vous avez l'allure d'une nutritionniste là, parce que vous nous parlez des choses purement techniques. Donc d'après toi, c'est la pauvreté qui en est la base de cette persistance de la malnutrition dans la vie des enfants et même dans les écoles. Et qui a encore quelque chose à ajouter, Ange?
Ouais, en parlant de l'installation des cantines scolaires dans les écoles, et je devrais dire que c'est vraiment important d'instaurer les cantines scolaires dans les écoles, parce que quand un enfant ne mange pas et il est à l'école, ça ne va pas vraiment lui donner la concentration de poursuivre ses études et de se concentrer à l'école. Et quand l'enfant ne mange pas, ça va créer le taux d'absentéisme dans les écoles. Vous allez constater que il y aura beaucoup d'enfants qui vont fuir l'école pour se retrouver dans la rue peut-être, chercher de quoi manger ou soit de rentrer à la maison et le parent vous envoie aller faire les marchés, aller vendre des trucs au marché pour obtenir de l'argent. Donc l'enfant ne sera pas obligé de retourner à l'école pour étudier. C'est pour cela, dans ce pays, nous constatons que le taux de malnutrition des enfants de moins de 5 ans et de l'au-delà souffrent de la malnutrition dans notre pays.
Vous ajoutez un élément très important, c'est que la malnutrition a des répercussions sur le capital humain même des enfants. Ça a tendance à diminuer leur intelligence. Okay. Et si aujourd'hui nous avons plusieurs enfants qui n'ont pas étudié et, ou qui n'étudient pas, ou soit étudient mais ne sont pas intelligents, c'est parce qu'ils mangent des aliments qui n'alimentent pas leur cerveau, qui ne sont pas riches en nutriments pour qu'ils soient de plus en plus intelligents.
Oui.
Et ça, c'est un manque à gagner pour notre pays. À moins que tu me dises le contraire.
Non, je ne vais pas dire le contraire.
Alors, quel est ton avis par rapport aux cantines scolaires avant d'écouter notre honorable en droite?
Ça dépend aussi des milieux, parce que là où moi je vis, il y a des écoles qui pratiquent les cantines scolaires, telles que l'Ikenabiso, là où moi je vis. Il y a de pain et de lait, malgré ce n'est pas suffisant, mais ils essayent quand même de faire l'essentiel pour les enfants. Mais si beaucoup d'écoles ne font pas cela, et il y aura le danger sur une éducation de qualité chez les enfants et même chez les enseignants, parce que quand un enseignant ne mange pas quand il est venu, il va être nerveux à l'école et il peut ou ne pas enseigner.
Donc ça joue sur l'éducation même de l'enfant.
Oui.
Donc les problèmes de la malnutrition n'est pas seulement pour les enfants mais aussi pour les enseignants. Ah non, mais ça c'est très sérieux. Hein? Est-ce que vous avez déjà visité certaines écoles et vous avez trouvé qu'il y a de cantines scolaires? Et en termes de statistiques parmi les écoles que vous avez visitées, vous avez trouvé quand même que les écoles ou les chefs d'établissement organisent tant soit peu de cantines scolaires, ou soit ils les font comme on le voit. Moi je me rappelle Angélie, quand je passe dans certaines écoles, vous allez voir il n'y a que des bonbons, des boudins, des pains, des mayonnaise. Et puis, bon, voilà, quand les enfants viennent le matin, ils pleurent. Maman, biscuits, maman, pain. Est-ce que vous avez fait déjà ces constats dans les écoles de la périphérie, surtout là où vous êtes?
Oui, déjà dans mon milieu, il y a une école qui organise des restaurations au sein de l'établissement scolaire, tel que Eli Kanabiso, ils organisent un peu du genre le thé, malgré que ce n'est pas trop, mais moins, ça participe à l'épanouissement ou encore ça donne de l'énergie tout au long de la journée scolaire.
Voilà. Ah, donc Eli Kanabiso, peut-être c'est l'unique école que vous avez visitée qui organise. Ah, vous habitez le même milieu, hein?
Ouais.
Ok, très bien. Alors, d'après vous, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes? Parce que, à vous entendre parler, de l'autre côté, il y a un problème de la pauvreté. De l'autre côté, il y a un problème de la malnutrition qui influence sur le capital humain, même des enfants. Et de l'autre côté aussi, avec notre collègue, l'insuffisance alimentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'aliments pour donner aux enfants à peine du thé et un pain, mais qui n'ont pas une consistance en termes de nutriments pour aider le cerveau de l'enfant à bien raisonner.
Oui.
Et même pas de l'enfant, mais aussi des enseignants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes? Parce qu'on doit instaurer ce système de cantines scolaires à travers tout le pays. Étienne, qu'est-ce que tu proposes surtout pour les enfants et qui sont en zone de conflit?
Surtout pour ces enfants-là, je propose les collectes de fonds parce que là où nous, les parlements des enfants, on effectue avec les DP foyers et la World Vision les activités. On part dans des églises, dans des écoles pour rassembler le fonds pour soutenir le problème de la nutrition des enfants. Et le collecte de fonds, c'est aussi ça a aussi un impact sur la vie sociale des enfants.
Très bien. Tu avais demandé la parole. Allez-y.
Ok, merci beaucoup. Avant que je puisse atterrir par rapport à ce que je pourrais proposer.
Oui, vous allez donner votre plaidoyer après.
J'ai d'abord mettre un mot, puisque on est quand même au mois de la femme, sans oublier que nous sommes en train de parler de la problème de la malnutrition.
Nous avons respecté la parité. Il y a deux hommes et deux femmes. Ne me créez pas de problèmes avec le mois de la femme.
D'accord, allez-y. On comprend. Nous sommes au mois de la femme et que nous sommes en train de parler sur le problème de la malnutrition. Ce que nous avons constaté sur terrain, c'est que la réalité est que les filles aussi sont vraiment victimes de la malnutrition. Pourquoi je pourrais invoquer ce problème, c'est parce que nous voyons nous-mêmes dans nos maisons, même pas dans nos maisons, dans des écoles, chez des voisins et voisines, et que les parents, des fois, font la discrimination de dire qu'il y a un repas, qu'une maman a préparé, les repas peuvent être équilibrés, mais il dit que je peux d'abord donner à mon enfant garçon, puisque lui, il va faire de l'argent, je vais m'en sortir avec lui, et que la fille reste d'abord, toi, occupe-toi des affaires ménagères, tu restes là. Donc, il priorise d'abord les garçons. Alors que les filles sont aussi très importantes, puisque quand on parle de la vie, on voit d'abord la femme en premier lieu. Sans la femme, on ne peut pas avoir la vie.
Okay.
Voilà pourquoi le fille subit aussi beaucoup de problèmes de malnutrition. Il y a aussi des filles qui mettent au monde pendant l'allaitement, elles n'arrivent pas à allaiter l'enfant comme il faut. Quand l'enfant aussi, à des fois nous oublions que quand l'enfant n'est pas bien allaité, l'enfant aussi peut tomber dans la malnutrition. Non seulement l'enfant, mais aussi sa maman si elle ne mange pas ça. Tout ça, ça compte dans la communauté puis dans la santé humaine. Maintenant, nous...
Donnez maintenant, faites votre plaidoyer. D'accord. Et comme ça, on va conclure avec d'autres collègues. Oui.
D'accord, le plaidoyer que je demanderai à ceux que les autorités acquises du droit puissent investir dans le programme de cantine scolaire dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo.
Très bien. Ah, là, vous venez de suivre une experte en genre. Hein? Étienne, quel est votre plaidoyer par rapport aux cantines scolaires? Nous sommes en train de conclure.
Bon, par rapport aux cantines scolaires, je demande tout juste l'implication renforcée du gouvernement, parce que c'était l'engagement pris par le gouvernement et ils doivent se mettre un peu plus de la volonté sur ça pour sauver des milliers d'enfants.
Très bien. Je vais finir avec toi. Le temps de donner la parole à l'honorable.
Merci. En tout cas, pour remédier à ces problèmes, nous demandons au gouvernement, aux autorités, de bien pouvoir mettre en place ces problèmes. Donc, le système de restauration scolaire, donc qu'ils puissent réaliser un peu ces problèmes. Et non seulement le gouvernement, mais aussi les parents doivent savoir quoi faire manger ses enfants dans des repas bien équilibrés et surtout sur l'hygiène alimentaire. C'est très important pour lutter contre la malnutrition.
Ange, avant que vous ne puissiez nous proposer ou donner votre plaidoyer, est-ce que quand vous passez dans les écoles, vous avez eu le temps de sensibiliser aussi les chefs d'établissement en ce qui concerne les cantines scolaires, parce que l'école aussi peut s'organiser à son niveau d'avoir un restaurant et puis inclure ou incorporer certains frais dans le frais scolaire qu'on peut soutirer et donner la nourriture qu'il faut pendant que l'enfant est à l'école. Est-ce qu'il y a eu des suggestions dans ce sens-là?
Bon, en parlant de sensibiliser les chefs d'établissement sur l'installation des cantines scolaires dans leurs écoles, j'aimerais vous rappeler que la Vision mondiale avait lancé en 2024, l'année passée, la campagne dénommée AC. Donc c'était une campagne lancée pour lutter contre la faim et la malnutrition. C'est par là que nous, le Parlement d'enfants, grâce à certaines formations que la Vision mondiale nous a données ou données appuyées, et nous descendons dans les écoles pour sensibiliser les chefs d'établissement, leur montrer qu'est-ce qui peut être un danger pour dans le point de nutrition pour les enfants étudiants. Et c'est par là que nous constatons certaines écoles maintenant qui commencent déjà à s'organiser, à chercher des petits pains, à chercher à ce qu'ils organisent des repas scolaires au fait. C'est un peu ça. Donc, nous continuons toujours
à... Vous battez à votre niveau pour faire le nécessaire en termes de sensibilisation. Très bien.
Ouais.
Quel est votre plaidoyer en ce qui concerne les cantines scolaires?
En parlant de l'installation des cantines scolaires, et nous demandons à ce que le gouvernement puisse mettre un budget alloué pour que ce programme puisse prendre de l'ampleur premièrement dans notre pays, parce que il y a eu souvent des problèmes, surtout pour les parents, parce que les parents sont souvent stricts sur ce que les enfants mangent à l'école. Et alors nous devons nous organiser pour leur sensibiliser et de leur parler c'est quoi l'avantage des cantines scolaires dans les écoles. C'est quoi l'avantage des cantines scolaires dans les écoles? Qu'est-ce que ça pourra faire dans l'avenir? Et c'est par là que demandons à ce que le président de la République puisse réaliser la promesse faite.
Lors de l'accession du président de la République à la magistrature suprême, au pouvoir, lui qui a promis à ce que nous puissions avoir des cantines scolaires à travers toutes les écoles pour combattre aussi la malnutrition. Et les enfants sont venus plaider à ce que le gouvernement puisse allouer des fonds pour donner l'avantage aux écoles d'alimenter ces services pour que nous puissions avoir les enfants intelligents, sages, qui vont contribuer à l'épanouissement et même à la bonne gouvernance de notre pays demain ou après-demain, car disons, l'avenir du pays, c'est les enfants, c'est les jeunes. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Vous êtes très intelligent. Très intelligent. Merci beaucoup à tous les enfants qui ont participé à cette première partie de l'émission Bana Okapi sur la Radio Okapi, la fréquence de la paix. Nous parlons des cantines scolaires, importance et impact avec l'ONG internationale World Vision. Comme vous le savez, c'est depuis 2023 que le gouvernement congolais a annoncé la mise en place des cantines scolaires dans différentes écoles d'ici 2024. La mise en œuvre de ce programme national d'alimentation scolaire est alignée sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Et aujourd'hui, les enfants parlementaires de la RDC sont venus donner leur plaidoyer pour que ce programme ait le soutien du gouvernement et surtout de son initiateur qui est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Rebonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent et vous écoutez Bana Okapi, votre programme dédié aux jeunes, aux plus jeunes et à leurs parents, fruit du partenariat entre Radio Okapi et l'UNICEF. Nous poursuivons notre exploration du sujet sur les cantines scolaires. Comme nous l'avons évoqué, le gouvernement congolais a annoncé en 2023 la mise en place de ces cantines dans diverses écoles d'ici 2024. Une initiative alignée sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Ces projets déjà mis en œuvre avec succès dans certaines provinces grâce au soutien de partenaires tels que le PAM, World Vision et diverses ambassades a démontré son importance dans la lutte contre le décrochage scolaire et la pauvreté. Dans cette seconde partie de notre émission, nous avons l'honneur d'accueillir nos invités. Ils partageront avec nous leurs connaissances approfondies sur les cantines scolaires et nous écouterons les témoignages des responsables d'école où ce programme est déjà en place. Préparez-vous à une discussion riche et éclairante où nous aborderons tous les aspects de ce sujet essentiel pour l'avenir de nos enfants. À la présentation de ce magazine, je suis Stanislas Diumi. Et c'est un plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. Un programme coordonné par Christian Mapinda Nouyakris avec la mise en onde de Pierre Diassinois et la supervision de Jean-Marc Matouakimofele les Dijano. Cette seconde partie s'ouvre en musique avec Mal accompagné de Fali Poupa.
Bana Okapi avec Stanislas Diumi.
Nous allons maintenant entendre les témoignages de directeurs d'école qui ont relevé les défis de mettre en place des cantines scolaires au sein de leur établissement. Suivez.
Je m'appelle Roger Chimangamoudje. Alors, je suis directeur de l'école primaire Miabi Central que vous avez l'honneur de visiter aujourd'hui. Ça fait plus de 5 ans. On est vraiment content de ce programme depuis que nous l'avons reçu ici chez nous dans notre école. Le programme évolue très bien. Je pense que nous avons remarqué du côté enfant, il y a une popularité d'élèves par rapport aux années antérieures. Il y a l'augmentation d'élèves dans nos salles de classe. Et ça est vraiment une des premières choses. De deuxième, nous avons vraiment remarqué aussi du côté santé des élèves. Il y a des élèves qui avaient une santé vraiment là médiocre, mais avec un peu le vivre qu'on est en train de leur donner, dispensé par le programme, nous avons trouvé que les enfants ont changé quand même. Il y a vraiment là une bonne posture chez les enfants. Vous voyez que les enfants qui venaient à l'école à Gênes, alors avec ce qu'ils trouvent ici sur place, ça fait que vraiment les enfants puissent retrouver comme ils se retrouvaient. Même les parents qui avaient difficile à aider ses enfants à la maison, donner à manger à ses enfants à la maison. Et aujourd'hui, il y a des fois les enfants, certains de ces enfants ici, après avoir été servis, rentrent comme ça, ils passent toute la journée à la maison comme ça. Mais nous pouvons dire que pour ce qui est de ce programme, il faut que le programme puisse continuer. Mais si ça continue, vraiment, nous serons vraiment très contents.
Je réponds au nom de Serge Mwanza Kapekula, suis titulaire de la 5e année à l'EPM Miabi Central. J'ai accueilli ce programme avec une grande joie, une grande satisfaction vis-à-vis de mes élèves. Je dirais que je totalise déjà 5 ans dans cette école où j'assiste à ce programme de la cantine scolaire. Depuis son lancement jusqu'à ce jour, nous avons constaté beaucoup de progrès vis-à-vis des enfants. D'abord, la santé des enfants s'est améliorée. Et enfin, nous assistons à beaucoup d'élèves. Nous avons beaucoup d'élèves qui participent aux études. C'est ça le grand avantage que nous avons rencontré depuis que ce programme existe dans notre école. Et par rapport à avant, les enfants étaient irréguliers. Ils ne venaient pas beaucoup à l'école. Mais cette fois-ci, ils se donnent beaucoup. Même leur niveau d'études, leur niveau d'application s'est beaucoup amélioré par rapport aux années antérieures. La difficulté que je peux exprimer est la suivante. Sinon, vous voyez, selon les programmes scolaires, il nous faut avoir au moins 40 ou bien 45 élèves dans une salle de classe. Mais avec l'avènement de notre cantine scolaire, nous assistons maintenant à plus de 100 élèves, ce qui nous met quand même dans quelques petites difficultés pour dispenser les matières. Nous assistons à beaucoup d'élèves dans une salle de... Voilà. Bon, nous avons été formés vis-à-vis de tout ça. Nous avons des méthodes qu'on utilise quand nous avons beaucoup d'élèves. Et on organise des travaux en groupe. Au lieu de concentrer sur un ou bien deux élèves, je peux regrouper 10 enfants, les donner un travail, 10 enfants, les donner un travail. Donc, un travail en équipe que nous avons toujours utilisé pour atteindre tous les niveaux des élèves.
Bana Okapi avec Stanislas Diouni.
Bienvenue à vous qui venez de nous prendre en cours de diffusion. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans les ondes de la Radio Capi, la fréquence de la paix qui aborde un sujet très important sur les cantines scolaires. Quel est son impact? Et on aborde ce sujet avec l'ONG internationale World Vision. Et sur ce plateau, nous recevons un nutritionniste du programme national de nutrition, Pronanut. Et il s'appelle Monsieur Damien Sabouni, à qui nous disons bonjour.
Bonjour.
Alors, Monsieur Damien, en tant qu'expert dans ce programme, quels sont les principaux effets de la malnutrition sur le développement physique et intellectuel des enfants?
Ok, merci pour cette question qui est vraiment importante dans la mesure où il faudra que tout un chacun, nous puissions savoir que nous mangeons, c'est pour répondre aux besoins de notre organisme. Et si les besoins ne sont pas couverts, il y a un impact sur notre santé et sur le plan physique comme sur le plan intellectuel. Alors, un enfant qui n'a pas mangé suffisamment de nutriments, s'il va à l'école, et il aura un problème sur, d'abord physique, ça veut dire que son corps n'est pas constitué comme tous les autres enfants. Et quand il est à l'école, l'organisme a besoin que le cerveau soit alimenté de glucose. Et le glucose vient des aliments que l'enfant a consommés, des aliments qui sont riches en glucides. Et s'il n'en a pas pris, cet enfant peut présenter une hypoglycémie. Et cette hypoglycémie va se répercuter sur l'inattention. Donc l'enfant ne va pas suivre les cours normalement. Et à un certain moment, il peut faire même une somnolence. Il fait semblant de suivre l'enseignant, mais il ne capte pas tout ce que l'enseignant lui dit, puisqu'il y aura des moments où il ne saisit pas tout ce qu'on lui dit, puisque le cerveau n'est pas suffisamment irrigué en glucose. Et donc, un enfant qui n'est pas bien nourri à l'école, il aura une déficience pour ce qui est de l'apprentissage. Et physiquement, c'est un corps qui ne peut pas tenir longtemps. Vous allez voir un enfant qui vient à l'école, mais pour atteindre 13 heures, l'enfant ne peut pas supporter. Et donc, nous avons tout intérêt à bien nourrir les enfants pour qu'ils soient à mesure d'être à l'école du matin jusqu'à 13 heures comme prévu, mais aussi d'être attentif et de pouvoir capter le maximum possible d'informations. Et l'apprentissage doit être correct quand il a été bien nourri.
Donc, à vous entendre parler, vous confirmez l'hypothèse selon laquelle la malnutrition a des répercussions même sur le résultat que l'enfant doit produire à l'école.
Oui, non, il y a des enfants qui échouent à l'école. Ce n'est pas qu'il n'a pas été intelligent. Mm-hmm. Son cerveau a été bien constitué quand il était à bas âge. Mm. Mais pendant la période scolaire où il fréquente l'école, il n'a pas suffisamment de nourriture qui lui permet de couvrir ses besoins nutritionnels. À ce moment-là, même si l'enfant avait des capacités d'apprentissage, ses capacités sont réduites du fait que l'inattention est due au fait que l'enfant n'a pas été bien nourri. Donc, on doit se rassurer que l'enfant a bien grandi, mais pendant la période scolaire, il doit aussi être bien nourri pour qu'il puisse suivre correctement et apprendre au maximum possible ce qui est à suivre à l'école.
Et quels sont les aliments essentiels pour une alimentation équilibrée chez les enfants d'âge scolaire? Parce que là, vous êtes en train de démontrer comment les enfants qui ne sont pas bien nourris ne font pas de bons résultats. Est-ce qu'il y a des aliments adaptés pour les enfants qui sont en âge scolaire?
Nous sommes en train d'encourager cette alimentation qui permet de couvrir les besoins en protéines, pour une bonne croissance de l'organisme. Nous devons savoir qu'il y a des protéines d'origine animale comme des protéines d'origine végétale. Sur le plan protéines d'origine animale, il suffira de prendre des aliments du règne animal. L'enfant peut prendre un œuf, pas nécessairement chaque jour. Il peut prendre un morceau de poisson, il peut prendre des chenilles, il peut prendre du lait, il peut prendre de la viande. Et ce sont des aliments qu'on peut trouver localement. Et donc, l'enfant peut prendre l'un de ces aliments chaque jour. Ça, ce sont les protéines d'origine animale. Mais il a aussi besoin de protéines d'origine végétale. Et ça aussi, nous les trouvons dans notre alimentation facilement. Tout ce que nous appelons les légumineuses. Donc, je cite les haricots, le soja, l'arachide, le pois, les petits pois, sont des aliments qu'on peut trouver facilement dans nos communautés, mais il faut que les parents sachent qu'au quotidien, il ne faudra pas qu'un enfant puisse manquer l'un de ces aliments. Mm-hmm. S'il a manqué les haricots, il peut utiliser l'arachide. Mm-hmm. S'il a manqué l'arachide, il peut utiliser le soja. S'il a manqué le soja, il peut utiliser les petits pois. Il peut utiliser le niébé. Donc, ce sont des aliments qu'on retrouve dans la communauté, mais seulement, des fois, les parents ne savent pas leur place dans l'alimentation de l'enfant. Alors, à part les aliments qui sont riches en protéines d'origine animale, d'origine végétale, nous avons besoin de prendre des aliments qui sont riches en vitamines et sels minéraux. Et ces aliments, on les trouve en prenant seulement les fruits et les légumes. Et là, nous citons, nous avons suffisamment de fruits dans notre pays, c'est diversifié. À chaque coin, il y a toujours des fruits qu'on peut utiliser. Un enfant peut utiliser un morceau de papaye, un morceau d'avocat, un peu de carotte, il peut utiliser l'orange, il peut utiliser tous les fruits possibles. Ça dépend des saisons et ça dépend de la disponibilité selon le milieu. Mais aussi, il a aussi besoin des légumes. Ici, nous pouvons citer les oignons qui sont utilisés, qu'on peut trouver, le poireau. Donc, on a beaucoup de légumes et fruits, les feuilles vertes de manioc, les feuilles vertes d'amarante, les feuilles vertes de la patate douce. Tous ces éléments sont riches en vitamines et sels minéraux qui permettent de couvrir les besoins de notre organisme. Mais à côté de ça, maintenant, ce que nous prenons facilement, qu'on trouve dans beaucoup de ménages, ce sont les aliments qui sont riches en énergie. Là, c'est vraiment fréquent. Il y a le manioc, il y a la banane, il y a la patate douce, il y a les taro, il y a le riz, il y a le maïs. Tout ça, le blé, et ce sont des produits qui sont très consommés. En tout cas, rares sont les familles qui manquent les produits qui sont riches en énergie. La difficulté, c'est quand on cherche les aliments qui donnent les protéines d'origine animale et d'origine végétale, les fruits et les légumes. Au moins, la grande partie de nos ménages, en RDC, on a les aliments qui donnent de l'énergie. Ce qui fait que l'alimentation en RDC, les grands problèmes, ça ne se pose pas chez les aliments d'origine animale, plutôt d'origine végétale qui donnent de l'énergie. C'est plutôt quand on va chercher les aliments qui donnent des protéines et les aliments qui donnent des vitamines et des sels minéraux. C'est là où il y a un peu de souci dans notre alimentation.
Monsieur Sabouni Damien, si je vous comprends très bien, là il y a un problème dans la lutte contre la malnutrition. Il y a aussi question d'habitude et peut-être d'environnement. Parce que, à vous entendre parler, les aliments que vous avez cités sont dans la cité, ça se vend partout. Mais les parents préfèrent encore mieux s'acheter des jus de Saint-Glace, des jus qui ont subi des transformations, de pain avec juste un peu de boudin, et puis les enfants grandissent avec ça. Et là, on va dire que la responsabilité n'est pas seulement à l'État, la responsabilité est limitée, il y a un problème d'information chez les parents. Ou quoi, vous en tant que spécialiste aussi, surtout un homme de terrain?
Il y a deux aspects qu'on doit considérer. Le premier, c'est la sous-information. Il y a des parents qui ne savent pas ce qu'il faut donner à leurs enfants. Il a des moyens peut-être financiers pour acheter, mais ne sachant pas ce qu'il faut acheter, ne sachant pas ce qui convient pour couvrir les besoins de son enfant, il va aller peut-être dans un supermarché et aller acheter des produits transformés au lieu de prendre des aliments locaux. Et vous allez voir que les aliments locaux coûtent même moins cher que les aliments de ces supermarchés.
Vraiment?
Des aliments transformés et des fois sur le plan nutritionnel ne répondent pas à tous les besoins nutritionnels. Très bien. C'est un problème de méconnaissance. Mais il y a un autre groupe, c'est au niveau des habitudes alimentaires. Mm-hmm. On dit nous, chez nous, nous mangeons ça, on ne mange pas ça. Ça, c'est aussi un frein pour ce qui est de l'alimentation. Nous avons trouvé qu'il est plus facile à quelqu'un de changer la façon de s'habiller, la façon de se coiffer, la façon de marcher, la façon de parler, c'est plus facile. Mais demander à quelqu'un de manger différemment de ce qu'on a toujours mangé, de ce que grand-mère a toujours mangé, ce que grand-père a toujours mangé, ce que maman a toujours mangé, des fois, ça prend du temps pour qu'il y ait un changement dans ce sens-là. Et voilà pourquoi, au niveau de l'instruction, nous sommes en train de multiplier des messages, des communications pour aider les gens à comprendre que les habitudes alimentaires, c'est bien, mais voyez quelles sont les habitudes alimentaires qui favorisent une bonne nutrition au lieu de privilégier les habitudes alimentaires qui n'amènent pas à une bonne nutrition. Je vais donner un exemple très simple. Il y a des gens qui pensent qu'on peut vivre avec la chikwang, avec un morceau de poisson salé. C'est une habitude. Donc, l'ikayabo, c'est vrai, c'est une protéine d'origine animale. Mais vous allez voir quelle quantité de l'ikayabo il va prendre. Il va prendre trop de chikwang, mais un petit rien de l'ikayabo. Mais l'ikayabo, là, il a besoin d'ajouter les légumes et les fruits. Malheureusement, il se limite au l'ikayabo avec la chikwang.
Beaucoup d'eau.
Et il prend de l'eau. Alors, il pense qu'il a bien mangé. C'est vrai, il a pris les l'ikayabo et les chikwang.
Il a rempli le ventre.
L'estomac est plein, mais sur le plan nutritionnel, il n'a pas appris beaucoup de choses. Il y en a même qui se donnent même le manioc. Au manioc cru. Alors, quand le manioc cru est mouqué, il pense qu'il a couvert ses besoins. Mais en réalité, il a manqué d'autres éléments. Parce que quand vous prenez l'arachide avec la chikwang, le manioc, juste c'est l'énergie avec un peu de protéines d'origine végétale. Mais vous n'avez pas pris de fruits, vous n'avez pas pris de protéines d'origine animale. Ce qui fait que dans l'alimentation, il y a ces deux aspects qui interviennent beaucoup. Ne pas savoir ce qu'il faut manger, mais aussi les habitudes alimentaires sur lesquelles certaines personnes sont très attachées au point de dire « Nous, on ne mange pas ça, nous, on ne mange que ça. » Ça, c'est notre tribu, par exemple. Nous, les tels, nous ne mangeons que ça. Et là, c'est la tribu qui prime à ce moment-là. Donc, les habitudes alimentaires, les us et coutumes prennent beaucoup d'importance. Et à ce moment-là, l'enfant va en pâtir puisque c'est lui qui fait ça, ce sont les parents. Et il ne donne que ce que lui aime.
Voilà, les parents ont une grande responsabilité. Et quant à ce sujet, il faut qu'ils soient vraiment informés et savoir ce qu'ils doivent donner aux enfants. Et dans ce cas, quels sont les signes de malnutrition à surveiller chez un enfant?
Un enfant qui fait la malnutrition, il a un problème au niveau de sa croissance. Vous allez voir que le poids de l'enfant ne va pas correspondre à son âge. Le poids de l'enfant ne va pas correspondre à sa taille. Alors, quand il y a cette discordance entre l'augmentation de l'âge et le poids ne suit pas, ou l'augmentation de la taille, mais le poids n'est pas en train de suivre cette augmentation de la taille, l'enfant va faire une malnutrition. Et cette malnutrition, on va l'observer même, vous allez voir que un enfant, le périmètre de son bras, comme il n'a pas mangé suffisamment, il sera réduit, le périmètre du bras. Et là, on mesure le périmètre du bras au niveau du bras gauche. Vous prenez les muscles, puisque quand l'enfant n'a pas mangé, l'organisme commence à consommer les réserves énergétiques qui sont au niveau de ses muscles. Ce qui va que ça va commencer à diminuer. Et pour ce qui est du poids par rapport à l'âge, vous allez voir que les enfants, vous allez avoir deux enfants qui ont le même âge, mais l'autre a 10 kilos et l'autre a 8 kilos. Ils ont le même âge. Pourquoi? Puisque l'autre n'a pas mangé suffisamment. Donc, le poids ne correspond plus à l'âge de l'enfant. Mais aussi, il y a deux enfants, il est en train de grandir en taille. Mais quand vous voyez, il devient mince. Donc, la taille est en train d'évoluer, mais comme il n'a pas mangé suffisamment, et il a un poids qui ne correspond pas à sa taille. C'est ce qu'on appelle la malnutrition aiguë. Elle peut être sévère comme elle peut être modérée. Mais le fait qu'un enfant a un poids qui ne correspond pas à sa taille, c'est un signe de la malnutrition aiguë. Et beaucoup de nos enfants, même à l'école, on peut en trouver. Des enfants qui font la malnutrition aiguë. Puisqu'ils n'ont pas mangé ce qu'il faut.
Avant de chuter, Monsieur Damien Sabouni, et comme vous le savez, à Bukavu, tout récemment, il y a eu la vente de produits réservés pour le malnutri au faveur de la communauté. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Parce que nous avons reçu des témoignages qu'il y a des produits que Pronanut donne aux enfants qui souffrent de la malnutrition, mais ces produits-là sont déjà en train d'être vendus
pour d'autres enfants qui sont en bonne santé. Cela a un impact sur leur santé future.
Celui qui fait cette pratique, il commet un double crime. Le premier crime, c'est que l'enfant qui a besoin de ces produits, qui est mal nourri, il n'en aura pas puisque les produits ont été déviés.
Oui, oui.
Donc il est en train de sacrifier cet enfant. C'est déjà un crime par rapport à l'enfant mal nourri. Mais le deuxième crime, c'est par rapport à l'enfant bien nourri, puisque ces produits étant des produits pour traiter une maladie, vous les donnez à celui qui n'est pas malade, vous détruisez son organisme. Donc cet enfant qui prend les produits très concentrés en nutriments et pour corriger la malnutrition, chez celui qui n'est pas mal nourri, ça détruit son système. Et donc à ce moment-là, vous créez un deuxième problème chez le bien nourri. Il deviendra mal nourri et pour eux, c'est souvent une malnutrition par excès. Parce qu'il a pris des produits qui sont très concentrés en éléments nutritifs. Et vous allez voir que certains enfants, à un certain âge, qu'il a consommé ça à bas âge, mais à l'âge avancé, vous allez voir, il peut faire des maladies cardiovasculaires, il peut faire même un diabète, il peut faire une maladie de son cœur, du rein, puisque un ou du foie. Parce que tout simplement, vous lui avez surchargé avec des aliments thérapeutiques qui étaient réservés aux malades. Donc, à ce moment-là, vous avez créé deux problèmes. Chez les mal nourris, vous l'amenez à la mort par manque de médicaments, de traitements. Et le bien nourri, vous le précipitez aussi à la mort, puisque vous lui créez des maladies qui n'étaient pas à ce niveau avant de recevoir ce produit. Donc, c'est un double crime. Celui qui fait cette pratique, il doit savoir qu'il est en train de tuer deux personnes à la fois. Et les mal nourris et les bien nourris.
Merci, monsieur Damien Sabouni. Alors, dernière question, et quels sont des conseils donneriez-vous aux écoles pour améliorer la qualité nutritionnelle de repas servis dans les cantines?
En tout cas, dans les cantines scolaires, ce que nous aimerions que d'abord on puisse proscrire tout ce qui est sucrerie. Les biscuits, les jus qu'on donne aux enfants, ça n'a pas de place. Les enfants ont besoin de l'eau d'abord pour répondre à leurs besoins en eau, les besoins hydriques, mais aussi ils ont besoin des aliments locaux, pas aller dans les supermarchés pour donner des histoires que trop transformées. L'enfant, il peut prendre une patate douce, l'enfant peut prendre du riz, l'enfant peut prendre du blé, l'enfant peut prendre du maïs, il peut prendre les aliments locaux dans les cantines scolaires, et donc nous sommes en train de promouvoir l'utilisation des aliments locaux, mais d'une façon équilibrée, en répondant aux besoins que je venais de citer là-bas. Il faut que dans l'alimentation on trouve des protéines d'origine animale, des protéines d'origine végétale, des aliments qui contiennent les vitamines et les minéraux, donc les fruits et les légumes, et on ajoute maintenant les aliments qui donnent suffisamment d'énergie. Mais localement, on peut trouver tous ces aliments, et quand on les prend de cette façon-là, ça permet à l'enfant de prendre ce qui est équilibré à partir des aliments locaux qu'il peut aller utiliser même à la maison quand il rentre à l'école. Il saura que ce qu'on mange à l'école n'est pas différent de ce qu'on mange à la maison. Mais il y a aussi un autre élément, c'est que à ce moment-là, quand on achète ces produits locaux, la maman ou le ménage qui a vendu ces produits, on l'aide à avoir des revenus.
Oui.
Au lieu d'aller dans les supermarchés pour enrichir encore les supermarchés, on rend la population plus pauvre. Et quand l'enfant trouve que ce qu'il a mangé à l'école diffère de ce qu'il trouve à la maison, il peut penser que ce qu'il y a à la maison n'est pas bon.
Ah oui.
Donc il faut déjà habituer l'enfant à consommer local pour que à l'école et à la maison, ça soit le même régime. Qu'il faut une adéquation. Pas manger à l'école autre chose que ce qu'on mange à la maison.
Très bien. Monsieur Damien Sabouni, je rappelle que vous êtes nutritionniste au Programme National de Nutrition. Nous vous disons merci pour cette opportunité que vous avez accordée à Radio Capi de répondre à toutes nos questions. Espérons vous retrouver très prochainement.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup.
Ok.
Bana Okapi avec Stanislas Diouni.
Monsieur Jean-Pierre Kibawa, manager à World Vision, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Aujourd'hui, nous parlons de cantine scolaire dans notre émission avec l'ONG dont vous êtes manager. Comme vous le savez, en 2023, le gouvernement congolais a annoncé la mise en place des cantines scolaires dans différentes écoles d'ici 2024. Là, on était en 2023, mais la mise en œuvre de ce programme national d'alimentation scolaire est alignée sur la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation en 2016 jusqu'en 2025. Et nous sommes à 2025, l'heure est au bilan, et nous félicitons déjà World Vision pour cette initiative et surtout pour ces différentes campagnes de sensibilisation avec vos différents acteurs, Monsieur Serge et toute son équipe qui ne se lasse pas de sensibiliser toute la communauté quant à ce sujet. Alors, en tant que manager, quel est l'état des lieux vous pouvez faire de cantines scolaires à travers notre pays?
Ah, merci beaucoup. L'initiative de cantines scolaires en RDC se situe au niveau embryonnaire parce que ça demande de moyens. Normalement, il y a des écoles qui ont pris l'initiative, mais on commençait à le sentir plus dans le secteur privé parce que dans le secteur officiel, ça devait engager le moyen de l'État. Mais comme l'État était déjà sur le front, ce qui a retenu la vitesse ou la mise en place des cantines scolaires. Mais néanmoins, le processus a commencé parce qu'il y a certains partenaires qui ont résolu de s'impliquer. Parmi ces partenaires, nous avons Vision Mondiale.
Alors, pouvez-vous nous expliquer en peu de mots les objectifs et les actions de la campagne AC que nous avons eu l'opportunité de couvrir
Merci beaucoup. Ce que vous avez vu à la radio et télévision, en rapport avec la sensibilisation, la campagne AC que Vision Mondiale a lancée, ce n'était que le début de la campagne et le processus se porte bien sur terrain. Au juste, quand on a lancé la campagne AC, c'est pour lutter contre la famine chez les enfants. Parce que comme vous le savez, Vision Mondiale, l'enfance, c'est notre référence pour que nous sommes en train de faire. Et si l'enfant est affamé, la suite des choses vont se compliquer. C'est ainsi que la lutte contre la famine chez l'enfant, c'est ça l'objectif primordial de cette campagne. C'est ainsi que maintenant cette campagne, on l'a fait sur plusieurs fronts et dans différents domaines. Il y a le domaine de la santé proprement dite, il y a le domaine de résilience des ménages, il y a le domaine de l'éducation tel que là où je suis en train d'œuvrer, telle que la lutte de la famine en milieu scolaire. Donc ça fait partie de la campagne qui se poursuit et qu'on est en train de célébrer la semaine de l'alimentation scolaire. Donc la campagne AC continue bien et se porte bien. Merci.
La campagne AC continue et se porte bien sur terrain parce que nous avons aussi des retombées quant à cette campagne. Et comment World Vision travaille-t-elle avec les communautés locales pour mettre en place des cantines scolaires durables?
Merci beaucoup. Vision Mondiale travaille avec les communautés locales pour mettre en œuvre, bien sûr, les cantines scolaires durables. Mais comment nous les faisons? Bien sûr, nous avons commencé les approches des cantines scolaires avec l'accompagnement, bien sûr, de notre partenaire fiable, PAM. Et PAM nous soutient dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Mais tout a commencé avec l'alimentation scolaire directe, sous forme d'un contexte d'urgence où on vient directement, on donne les tonnes de nourriture aux enfants et ils sont servis. On prépare pour eux, ils mangent et ainsi de suite. Mais nous sommes en train de réfléchir. Jusqu'à quand allons-nous continuer à apporter des nourritures déjà produites ailleurs? C'est ainsi que nous sommes en train de passer de l'alimentation scolaire directe à l'alimentation scolaire durable. Et la seule manière de rendre cette durabilité parmi nos résultats des interventions, nous avons un résultat qui cherche à rendre la communauté autonome avec leur implication. C'est ainsi que les jardins scolaires et les jardins communautaires sont mis en œuvre dans la communauté afin que la communauté s'approprie ses activités. Et lorsque la vision mondiale va quitter une communauté, au moins les autorités scolaires, ensemble avec les parents, qui sont déjà mobilisés et impliqués pour la prise en charge locale, je pense qu'ils vont prendre la relève et le projet sera un peu durable. Donc, les parents sont conscientisés pour les épargnes. Bien sûr, ils épargnent comment? Ils peuvent amener quelque chose en nature dans une école. Vous savez,
allô?
J'ai toujours bousculé par son enfant. Oui, allô?
Est-ce oui, allez-y.
Comment?
Oui, maintenant je te capte.
Ok. Mmh. D'accord. Comme vous le savez, chaque matin, quand l'enfant quitte la maison pour aller à l'école, il demande toujours quelque chose aux parents pour manger à l'école. Et nous tous, nous sommes parents. Nous commençons déjà à nous habituer à cette pression-là des enfants. Maintenant, imaginez si nous demandons à chaque parent tout ce qu'il est en train de dépenser comme nourriture qu'il donne à son enfant pour aller manger à l'école. Mais il mobilise cette force pour contribuer déjà à l'école et que l'enfant prenne cette nourriture à l'école. Je pense que c'est l'une des grandes stratégies que nous avons mis en place pour que les cantines soient durables. C'est ainsi que les cotisations, les contributions des parents sont devenues une procédure qui est vraiment appliquée dans nos communautés que nous accompagnons afin que les cantines scolaires continuent à donner ce fruit avec les cotisations locales, même si l'appui des parents ou quand Vision Mondiale quitte une communauté, que les activités soient pérennisées. Voilà au moins l'approche que nous avons mise en place pour mettre en œuvre les cantines scolaires durables.
Mettre en place les cantines scolaires durables, mais parmi vos approches, vous avez parlé tout à l'heure de jardin scolaire. Comment cela fonctionne?
Merci beaucoup. Les jardins scolaires sont des jardins qui sont mis en œuvre grâce aux efforts des écoles. Mais ce ne sont pas des élèves qui cultivent dans ce jardin. Ce sont les parents des élèves qui sont impliqués, qui ont compris l'importance de la nourriture ou de l'alimentation à l'école. Ils ont pris conscience de participer à la mise en œuvre de ces jardins-là. Et ça commence déjà à porter des fruits. Nous avons, par exemple, nos jardins scolaires que nous implémentons du côté de Cabinda. Vous allez voir que les parents ont compris. Et une fois, il n'est pas dit qu'il peut aller tous les jours dans ce jardin, mais on fait tout un horaire sous forme d'une rotation. Un groupe de parents peut passer dans ce champ cette semaine, ou bien aujourd'hui, lundi, mardi, un autre groupe passe, mercredi, et ils font cette rotation, et le jardin est en train d'avancer comme si c'était leur propre champ. Et comme ils sont conscients et sûrs que ce sont les produits ici de ces jardins, que leurs enfants vont manger dans les écoles, je pense que c'est vraiment l'approche qui commence à avoir des fruits et nous pensons que si le gouvernement nous accompagne dans cette logique, on peut amener cette façon de faire les choses dans toutes les écoles de la RDC et ça sera vraiment du succès.
Pensez-vous que cette approche marche en milieu urbain qu'en milieu rural?
En milieu rural, c'est bien parti parce que l'agriculture fait partie de la vie quotidienne des parents. Hmm. C'est ainsi que nous avons démarré cette logique en milieu rural. Mais en milieu urbain, on y réfléchit encore. Nous cherchons comment mettre en place une approche qui va demander l'implication des parents avec des cotisations. Et il y a déjà des écoles privées qui nous sollicitent par rapport à ça. Et il y a certaines écoles privées qui ont mis en place des cantines scolaires payables. Et je vous dis que les parents ont accepté et ça commence à produire des fruits. Mais nous y réfléchissons quelle est la stratégie que nous allons mettre dans les écoles officielles par rapport à ça. Mais ça va marcher parce que je sais que le gouvernement a prôné la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, elle est totalement gratuite. Maintenant, est-ce que le repas scolaire sera aussi gratuit? Le gouvernement peut accompagner cela sans problème. Et aussi, nous voulons mener un plaidoyer de haut niveau pour que les écoles qui évoluent en milieu urbain et qui sont, par exemple, dans des contextes où il y a les mining, les sociétés minières, nous voulons que l'État soutienne le plaidoyer afin que les sociétés minières, dans leur redevance minière ou dans leur responsabilité sociétale, connaissent cette obligation d'accompagner les cantines scolaires dans les écoles. Je pense que ça aura du succès même en milieu urbain. Ça dépend maintenant du ciblage qu'on va faire et des contribuables. Les autorités sont en train de m'écouter, les communautés elles-mêmes sont en train de m'écouter. Nous avons des approches communautaires où on demande à la communauté de se prendre en charge et de mener un plaidoyer aux décideurs pour que la pratique qui soutient la scolarité des enfants avec efficacité soit mise en œuvre. Donc, la communauté elle-même se prendra en charge avec les approches citoyennes que nous allons amener, quel que soit milieu urbain ou quel que soit milieu rural. Merci.
Très bien. Il est certes vrai que en milieu urbain, c'est vraiment des stratégies qu'il faut à tout prix réfléchir pour que l'approche jardin scolaire puisse marcher. Nous venons d'écouter l'expert de Pronanut qui a même parlé que l'enfant doit à tout prix manger le même repas à la maison et à l'école pour que il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire il est à l'école, il a un autre repas, à la maison, autre repas. Et l'approche de jardin scolaire va vraiment répondre à ces problèmes, compte tenu même de l'impact de la nutrition sur le capital humain de nos enfants. Alors, Monsieur Jean-Pierre Kibawa, comment les auditeurs peuvent-ils soutenir les actions de World Vision en faveur de l'alimentation scolaire?
Bien, merci beaucoup. Je pense que les auditeurs, il y a plusieurs catégories d'auditeurs, bien sûr.
Ah oui, oui.
Je commence par la catégorie de la communauté bénéficiaire elle-même.
Allez-y.
Tout parent qui est en train de mettre le lieu où nous sommes en train de mettre le jardin communautaire et le jardin scolaire, je pense que nous l'invitons à s'impliquer totalement dans la production ou dans la mise en place de ce jardin parce que c'est au profit de son enfant. Donc, tout parent qui m'écoute, je pense que c'est la seule manière d'accompagner la vie dans la plénitude de l'enfant. C'est la prise de conscience des parents eux-mêmes pour qu'ils comprennent que le repas qu'on va produire, ce n'est pas le repas de Vision Mondiale, c'est le repas pour leurs propres enfants et pour la scolarité de leurs enfants. Donc, s'ils s'impliquent sérieusement dans la production locale, je pense que même PAM qui nous soutient va dire un ouf de soulagement parce que la communauté elle-même a décidé de se prendre en charge. Un autre appel, c'est à propos des autorités scolaires qui sont en train de m'entendre, qu'ils s'impliquent dans la budgétisation du budget de l'État, qu'ils pensent que les cantines scolaires, c'est vraiment une solution à la rétention des enfants dans des milieux scolaires, à la réduction des taux d'abandon et même à l'amélioration de leur santé. Ce qui fait que si le gouvernement s'implique sérieusement dans cela, nous allons faire de bons résultats. Et par rapport à ceux qui ont le pouvoir sur la gestion des sociétés locales, tout ça, c'est question d'insérer dans la responsabilité sociétale de différentes sociétés minières ou autres productions ou artisanales, tout dépend de chaque environnement. Si on mobilisait tous ces décideurs et tous ces producteurs pour accompagner les écoles dans ce système de cantines scolaires, je pense que c'est une approche qui va donner de bons fruits et eux-mêmes vont témoigner qu'ils ont vraiment contribué à l'éducation des enfants en RDC. Voilà moi ce que je pourrais dire aux auditeurs.
Monsieur Jean-Pierre Kibawa, dans ce combat de World Vision sur la pérennisation, si je puis dire ainsi, des cantines scolaires, je trouve qu'il y a quelques défis auxquels vous faites face pour la mise en œuvre de ce programme dans les différentes écoles.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est ça le développement. Nous, en développement, nous disons toujours que ce n'est pas une science nette, ce n'est pas une science exacte. Vous pouvez planifier certaines choses, mais sur le terrain, vous pensez que vous vous rendez compte que les choses ne se font pas telles qu'on voulait que ça se fasse. Effectivement, nous avons certains défis. Je donne l'exemple de l'impraticabilité de routes. Comme nous avons démarré l'approche dans des milieux ruraux, nous rendons compte que il y a des routes vraiment impraticables et pour acheminer les vivres, ça nous cause des casse-têtes. Et on n'a pas assez de moyens pour avoir beaucoup de véhicules. Parfois, nous sommes obligés de recourir aux véhicules de location pour amener la nourriture dans des écoles ciblées. Et comme vous le savez, notre principe, c'est accompagner les plus vulnérables. Et ce sont des écoles ciblées qui sont aussi plus vulnérables, qu'on trouve plus dans les intérieurs du pays. Et la praticabilité de route est un peu un casse-tête pour acheminer les vivres. Mais ça peut être résolu si on commence à produire localement. Peut-être il y a aussi d'autres défis. Nous voulons vraiment l'accompagnement du gouvernement dans ce que nous sommes en train de faire. Mais déjà aujourd'hui, le gouvernement vient de développer la stratégie nationale de l'alimentation scolaire. Et ils ont invité Vision Mondiale dans l'élaboration de cette stratégie. Nous disons c'est bien parti. Je pense que si nous sommes accompagnés par le gouvernement dans ce que nous faisons, ça va contourner certains défis. Et autre défi, c'est un peu interne. Bon, là, c'est par exemple le staffing, le nombre d'agents que nous avons sur terrain est un peu inférieur par rapport aux besoins. Et tout ça sont les défis auxquels nous sommes confrontés. Merci.
Cher manager, il faut embaucher les gens alors. Embaucher les gens.
Oui, ça c'est notre volet. Ce n'est plus mon département, c'était notre volet.
Ok, les responsables.
Je donne le rapport aux.
Les responsables du département.
Il m'entend, le département.
Il nous lit en copie.
Le département de ressources humaines est en train de me suivre, oui. Exact.
Alors, une question de curiosité, monsieur Jean-Pierre. Mais pourquoi cette approche d'utiliser les enfants pour la sensibilisation en ce qui concerne la malnutrition? Pourquoi World Vision utilise les enfants? Avez-vous un plaidoyer à faire à notre gouvernement, tout en commençant par l'initiateur des cantines scolaires et le gouvernement, les parents, les écoles et les enfants qui sont bénéficiaires de cette cantine scolaire à tous les niveaux, en peu de mots, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comme ça sera votre dernier mot. Merci à vous, monsieur Jean-Pierre Kibawa, manager à World Vision. Voilà les amis, notre émission Bana Okapi s'achève pour aujourd'hui. Les cantines scolaires, importance et impact avec World Vision, c'est la thématique qui était au cœur de cette émission. Vous souhaitez réécouter les témoignages poignants et les analyses de nos experts? Rendez-vous dès maintenant sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous retrouverez l'intégralité de ce numéro ainsi que toutes nos autres productions. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook Bana Okapi pour partager vos impressions, poser vos questions et prolonger la discussion. Nous disons merci à toute l'équipe de World Vision et aux collègues qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Jeff Opela, Ezekiel Mouzaïlia, Guylaine Kassassia, Étienne Lissoumbou, Pascal Tinamoula, Grasson Vuezolo, André Kitenge, Christelle Fritti, Sulamit Ngoma, Greta Lulendo et Sarah Sumbela. Un grand merci également à Christian Mapendano et à Chris pour la coordination, à Jean-Marc Matoua qui m'a fait les Dijano pour la supervision et à Pierre Diassinois pour la mise en onde. Je suis Stanislas Diomi à la présentation. Un grand merci à tous nos auditeurs fidèles et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Bana Okapi.